Bonjour Stanislas Fassac.
Bonjour Maïlys Besri.
Alors il est 12h30 sur France Culture et tout de suite c'est l'heure du journal de la rédaction.
Un nouveau patron pour les patrons. Geoffroy Roux de Bézieux a été élu ce matin à la tête du MEDEF. Cet homme d'affaires de 56 ans veut incarner un patronat moderne pour redorer le blason des chefs d'entreprise. Les explications de Catherine Pétillon dans un instant. Les sénateurs dressent un constat alarmant sur l'état des forces de l'ordre en France. Entre sous-équipement et surcharge de travail, le rapport sénatorial évoque aussi un syndrome Magnanville en référence à l'attentat djihadiste contre un couple de policiers. Nous en parlerons avec Luc Cascaltriti. La gaffe de Jacqueline Gourault, la ministre auprès du ministre de l'Intérieur, a parlé ce matin des prisonniers politiques corses, expression revendiquée par les seuls nationalistes. L'analyse de Frédéric Seyss dans cette édition. Le chancelier autrichien Sébastien Kurz devant le Parlement européen ce matin à Strasbourg. Sébastien Kurz est aujourd'hui l'une des figures de proue du populisme européen. Avec le Hongrois Viktor Orban ou l'Italien Matteo Salvini, nous rejoindrons Quentin Dickinson à Strasbourg. Au menu de la grande table d'été, Maïlys Besri.
Et ben aujourd'hui, on va habiller les contes de fées, juste avant de faire le portrait de celle qui a écrit les anti-contes de fées, l'auteur jeunesse Nadja.
Maïlys, on vous retrouve dans un petit quart d'heure.
A tout à l'heure.
Le nouveau patron des patrons s'appelle donc Geoffroy Roux de Bézieux. Le PDG du fonds d'investissement Notus Technologies a été élu ce matin président du MEDEF avec 55,8% des voix. Il avait face à lui Alexandre Sobo, dirigeant du groupe industriel Olot. On retrouve au siège du MEDEF Catherine Pétillon. Bonjour.
Bonjour Stanislas.
Geoffroy Roux de Bézieux va donc succéder à Pierre Gattaz au terme d'un vote plutôt serré.
Oui, 224 voix pour son adversaire Alexandre Sobo et 284 pour Geoffroy Roux de Bézieux. L'entrepreneur qui avait en 2013 échoué face à Pierre Gattaz prend cette fois la tête du mouvement pour 5 ans après avoir axé sa campagne sur une image de patron moderne censé incarner un MEDEF renouvelé. Et c'était vraiment d'ailleurs la tonalité de son discours ce matin avant le vote. Passé par les secs, Geoffroy Roux de Bézieux a créé plusieurs entreprises de la tech et la téléphonie. Vous le disiez, il est aujourd'hui patron d'un fonds d'investissement. Il connaît bien aussi les arcanes du MEDEF puisqu'il était auprès de Pierre Gattaz, vice-président chargé entre autres de la fiscalité numérique. Alors celui qui se présente comme le candidat et donc désormais président du changement devra désormais, Stanislas, orchestrer cette transformation du mouvement qu'il a ce matin encore appelé de ses voeux.
Et justement, Catherine, dans sa première intervention, Geoffroy Roux de Bézieux a tracé les grandes lignes de son action à la tête du MEDEF.
Oui, il a fait un discours en forme de prospective, imaginant ce que serait le MEDEF en 2023. Et face aux incertitudes politiques et géostratégiques, il a rappelé ses certitudes, jugeant qu'il fallait transformer le MEDEF pour aider à transformer le pays. Cela passe par quelques points de son programme qu'il a rappelé, son combat pour la compétitivité des entreprises à travers la baisse du coût du travail, des impôts de production et des dépenses publiques, sa volonté de transformer le paritarisme, refusant, je cite, les négociations alibi où plane l'ombre tutélaire de l'État, et imaginer un dialogue social qui devienne un dialogue économique et social. Rappelons néanmoins que le rôle que doit jouer le MEDEF dans le paritarisme et le dialogue social fait débat au sein même du MEDEF. Il faudra donc rassembler autour de ce sujet. L'État n'a pas le monopole de l'intérêt général, a-t-il enfin scandé avant de conclure. Les Français savent que demain, ce sont nous, les entrepreneurs, qui allons changer le monde. Geoffroy Roux de Bézieux a aussi ce matin présenté son conseil exécutif paritaire. Il rassemble entre autres d'anciens candidats, notamment Patrick Martin, qui devient son numéro 2. Le nouveau président du MEDEF a annoncé qu'il appellerait les syndicats dès aujourd'hui.
Catherine Pétillon, en direct du siège du MEDEF à Paris. Merci, vous étiez avec Mathieu Perrault pour les moyens techniques. Depuis le début de l'année, plus d'une trentaine de policiers et gendarmes se sont suicidés en France. Ce dernier drame en date dans la nuit de dimanche à lundi. À l'hôtel de police de Rennes, un fonctionnaire de la compagnie départementale d'intervention s'est donné la mort avec son arme de service dans les toilettes de l'immeuble. Un rapport sénatorial pointe justement le profond mal-être des forces de l'ordre. Les sénateurs ont enquêté pendant 6 mois. Ils appellent à une réforme profonde de la sécurité intérieure avec 32 propositions. Il faut savoir que le gouvernement dépense chaque année 2000 euros par policier, un investissement visiblement insuffisant pour enrayer ce mal-être. Lucas Caltriti, bonjour.
Bonjour.
Alors, quelles sont les conditions de travail évoquées dans ce rapport sénatorial ?
Tout d'abord, l'enquête des sénateurs montre qu'un grand nombre d'heures supplémentaires faites par les forces de l'ordre ne sont ni récupérées ni indemnisées. Impossible de toutes les récupérer car il manque des effectifs. Impossible de les payer car cela coûte beaucoup trop cher. Pour solder toutes les heures supplémentaires des policiers, l'État devrait débourser plus de 270 millions d'euros. Il y a donc une surcharge de travail, ce qui fatigue physiquement et psychologiquement policiers et gendarmes. Le rapport sénatorial note qu'un policier passe en moyenne au mieux un week-end par mois en famille. Ensuite, il y a aussi la question matérielle qui pose problème. Les sénateurs parlent de locaux délabrés ou encore de voitures vieillissantes, à tel point que certains policiers d'Île-de-France rapportent qu'il n'est pas rare que des portes coulissantes sur les véhicules tombent en pleine intervention.
Lucas, ce rapport sénatorial évoque aussi un autre élément constitutif du malaise des forces de l'ordre, c'est le syndrome Magnanville.
Oui, cela fait référence à l'attentat il y a un petit peu plus de 2 ans dans cette ville des Yvelines où un couple de policiers a été assassiné chez lui par un terroriste. Cet effet Magnanville n'est certes pas nouveau, mais il persiste. Et ce double assassinat a engendré, selon le rapport, une véritable rupture dans l'esprit des policiers et des gendarmes. Pour les sénateurs, il y a une violence accrue à l'égard des forces de l'ordre et ils se sentent tout simplement pris pour cible. Désormais, ils craignent d'être attaqués à tout moment, uniquement en raison de leur métier. Cette peur des représailles a même forcé certains agents à déménager plus loin de leur lieu de travail.
Lucas Caltritti, merci. Y aurait-il des prisonniers politiques corses en France? Oui, si l'on en croit Jacqueline Gourault, la ministre en charge du dossier Corse, a utilisé l'expression ce matin sur France Inter, une expression pourtant revendiquée par les seuls nationalistes. Alors je vous propose de réécouter tout d'abord les propos polémiques de Jacqueline Gourault. C'était au micro de Léa Salamé.
Il y a eu récemment des prisonniers politiques qui ont été rapprochés en Corse. C'est du domaine de la chancellerie, c'est au cas par cas. Et la ministre garde des Sceaux, bien sûr, fait son travail, mais on n'a pas non plus à, comment dire, fanfaronner, crier sur les toits quand il y a des prisonniers qui rentrent sur le territoire.
Lesquels ?
Corse. Alors, je ne sais pas leur nom, bien évidemment, mais il y en a eu 3 récemment.
Frédéric Saïs, bonjour.
Bonjour.
Une ministre de la République qui parle de prisonniers politiques en France, ça s'appelle une boulette ou au pire un dérapage.
Oui, dans ce dossier corse, les mots sont très importants. Ils identifient évidemment le camp qui s'exprime. Prisonniers politiques, les nationalistes corses utilisent ces termes pour évoquer les détenus qui appartiennent à la mouvance indépendantiste. Des détenus de droit commun, corrige l'exécutif, qui souligne qu'aucun de ces prisonniers n'est emprisonné pour ses seules opinions, ce que sous-entendrait l'expression prisonniers politiques, mais qu'ils sont détenus pour des faits délictueux ou criminels. Jacqueline Gourault elle-même est la ministre chargée des discussions avec les élus corses. Elle est particulièrement familière de ces débats lexicaux. Elle est donc aussi particulièrement bien placée pour mesurer la portée de son erreur. Ce matin, elle a tout de suite fait machine arrière. Évidemment, je ne m'approprie pas l'expression prisonnier politique, a-t-elle posté sur Twitter, un rétro-pédalage décidé sur le conseil de Matignon. Les élus nationalistes, eux, boivent du petit lait, forcément. Voici ce qu'écrit ce matin Gilles Simeoni, le président du conseil exécutif de Corse. La reconnaissance par Madame Gourault de la notion de prisonnier politique est à mi-chemin entre le lapsus freudien et le coup de chapeau involontaire à Gramsci. Gilles Simeoni, persuadé d'avoir remporté une petite victoire dans la fameuse bataille culturelle chère aux penseurs italiens.
Frédéric Seyss du service politique de France Culture. Le ton monte entre le gouvernement et les collectivités locales. Les présidents des associations des régions, départements et maires de France se boycotteront la future conférence nationale des territoires le 12 juillet. Une démarche conjointe inédite pour dénoncer un recul de la décentralisation et l'absence de véritable dialogue avec l'État. Les 3 présidents, Hervé Morin pour les régions, Dominique Bussereau pour les départements et François Baroin pour les maires, ont tenu ce matin une conférence de presse commune. Le nouveau coup d'éclat de Greenpeace, l'ONG a envoyé ce matin un drone au-dessus de la centrale du Bugey dans l'Ain et l'a fait volontairement s'écraser contre le mur de la piscine d'entreposage de combustible usé. Pour Greenpeace, il s'agissait une nouvelle fois d'alerter l'opinion sur les supposées défaillances de sécurité des centrales nucléaires. Yannick Rousselet est en charge de la campagne nucléaire pour Greenpeace France.
L'un de ces drones qui était habillé en Superman, un mannequin volant, on va dire un drone volant de 1,80 m de haut, donc est rentré dans la zone interdite de survol de la centrale nucléaire de Bugey pour aller se cracher volontairement contre le mur de la piscine qui contient les combustibles usés de la centrale nucléaire, du réacteur numéro 2 de la centrale nucléaire de Bugey. Et ces piscines ne résisteraient pas à des agressions externes, des actes de malveillance volontaires. Il faut absolument que EDF bunkérise ces piscines et un trou dans une de ces piscines pourrait provoquer un accident nucléaire qui pourrait être un dimensionnement supérieur supérieur à celui de Fukushima. Ni la défense aérienne, ni la sécurité de la centrale n'a été en capacité de réagir. On a même laissé quelqu'un sur place pour observer les réactions. On peut vous dire que dans l'heure et demie qui a suivi, il n'y a eu ni un gyrophare, ni un quelconque mouvement sur la centrale nucléaire.
Yannick Rousselet de Greenpeace France, il répondait à Benjamin Illy. C'est l'un des leaders européens de la mouvance populiste hostile à l'immigration. Le chancelier autrichien Sébastien Kurz est au Parlement européen aujourd'hui à Strasbourg, car l'Autriche prend pour 6 mois la présidence de l'Union européenne. Le conservateur Sébastien Kurz, qui dirige son pays avec le FPE classé à l'extrême droite. On retrouve Quentin Dickinson au Parlement européen. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors Quentin, le discours de Sébastien Kurz devant les eurodéputés était très attendu, notamment sur la crise migratoire.
Eh bien, sur la crise migratoire, justement, ceux qui attendaient un matamor populiste ont été déçus. Toute cette matinée, en effet, Sébastien Kurz aura fait un saut de courtoisie vis-à-vis des rangs, à dire vrai, assez clairsemés, des eurodéputés. Son discours de présentation des priorités des 6 mois de présidence du Conseil de l'UE s'est avéré particulièrement lisse et ses contempteurs en ont été réduits à des procès d'intention à son encontre. Monsieur Kurz aura en effet, à de multiples reprises, souligner la sécurité à laquelle tout citoyen européen a droit, mais sans évoquer les moyens précis qu'il entendait mettre en œuvre à cette fin au niveau européen. Sa volonté affichée de sanctuariser les frontières extérieures de l'UE est aujourd'hui partagée par tous, tout comme la révision urgente du système européen d'asile. Sa prudente saillie contre la Russie, certes coupable d'actes graves contraires au droit international, mais avec qui il faudra bien parler, a également rejoint le consensus parlementaire à cet égard. Pas de polémique possible non plus sur la priorité au développement de l'Afrique comme moyen de contrer la tentation migratoire. Et la perspective européenne à offrir aux pays des Balkans occidentaux n'a pas non plus provoqué de remous dans l'hémicycle. En réponse, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a dit souhaiter que l'ensemble des partis de la coalition au pouvoir à Vienne partagent ses bonnes dispositions. Ensuite, à des degrés divers, les présidents des 8 groupes parlementaires l'ont rappelé à n'oublier jamais le bien commun des Européens et la vision du temps long. Il s'est tout de même trouvé un député de gauche pour affirmer qu'il craignait que M. Kurz ne soit qu'un Salvini au visage d'ange.
Quentin Dickinson en direct du Parlement européen de Strasbourg, merci. En Allemagne, Angela Merkel a une nouvelle fois sauvé son poste de chancelière hier soir. Son parti, la CDU, a conclu un accord avec les Bavarois de la CSU, accord qui durcit considérablement la politique migratoire allemande. Des camps de transit pour les migrants enregistrés dans d'autres pays européens vont être mis en place. Du coup, le ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, président de la CSU, renonce à démissionner. Cet accord doit maintenant être validé par le SPD. Les 3 partenaires de la coalition se réunissent à 18h ce soir à Berlin. Emmanuel Macron poursuit sa visite en Afrique. Il a passé la nuit à Nouakchott en Mauritanie. Après avoir participé au sommet de l'Union africaine, le président en a profité pour rencontrer les pays du G5 Sahel, cette force conjointe destinée à lutter contre les djihadistes dans la bande sahélienne. Emmanuel Macron est attendu aujourd'hui au Nigeria, une visite de 2 jours où l'économie devrait prendre le pas sur les questions sécuritaires. On retrouve à Abuja notre envoyé spécial Franck Mathevon.
Pour l'Elysée, cette visite au Nigeria permet de montrer une autre image de l'Afrique, loin des clichés, un continent jeune, dynamique, culturellement riche et anglophone. Le Nigeria est tout cela. Certes, il y a de nombreux foyers de tension, Boko Haram sème encore la terreur dans le nord-est, mais le pays est aussi la première économie africaine, 3e population mondiale en 2050, plus de la moitié des habitants ont moins de 20 ans. Pour la première fois aujourd'hui, un président français se rend à Lagos, plus grande ville d'Afrique, mégapole qui pèse plus économiquement que la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Cameroun réunis. Emmanuel Macron, qui a fait son stage de l'ENA au Nigeria, y rencontrera demain de jeunes entrepreneurs pour une séance de questions-réponses. Mais d'abord ce soir, il se rend à l'Africa Shrine, salle de concert emblématique de la musique nigériane, fondée par l'icône Fela Kuti, rebâtie par son fils Femi, pour oublier, quelques heures au moins, les fléaux de la pauvreté et du terrorisme.
Franck Mathevon pour France Culture au Nigeria. Un mot du temps cet après-midi, orageux sur une grande partie du pays, de la Normandie au Grand Est, mais aussi sur les reliefs Pyrénées, Alpes et Massif central. Ailleurs, soleil et chaleur continueront à s'imposer. Température maximale 20 à 29 degrés sous les nuages, 28 à 33 sur le reste du pays.